critiques, de lectures, de noms d'écrivains, de noms de comédiens. C'est en quelque sorte aussi un hommage à toutes celles et à tous ceux qui nous nourrissent et qui nous permettent d'être vivants.
Philippe Claudel, comme votre narrateur, vous avez perdu un ami proche, votre éditeur, Jean-Marc Roberts, et votre narrateur explique sa démarche. J'ai entrepris ce texte comme on espère reprendre une conversation interrompue. Vous avez écrit ce livre pour pouvoir converser à nouveau avec votre ami décédé?
Pas tout à fait. C'est-à-dire que cette conversation avec mon ami décédé, je l'ai déjà menée dans un petit livre que j'ai écrit. J'ai commencé le jour de sa mort il y a 3 ans. J'ai publié très vite, qui est un tombeau au sens littéraire, c'est-à-dire une petite œuvre dans laquelle on essaye de déposer le corps du défunt en l'entourant de mots.
Votre narrateur dit encore, je parle souvent à Eugène à haute voix ou en silence. Je lui dis ce qu'il a raté d'événements majeurs dans le monde. Je lui parle de la bêtise et de sa progression. Vous lui dites quoi, vous, à Jean-Marc Roberts, à propos des événements majeurs de ce début d'année?
Non, mais je l'engueule aussi en me disant,
Ah.
mais c'est dommage, t'es parti avant la grande Debellezza, puisque j'en parle dans le livre, je regrette que nous n'ayons pas
film.
Vu ensemble certains films, ou alors pas lu certains livres. Donc il n'y a pas seulement des événements tragiques. Quand on avance dans la vie, on voit autour de soi, effectivement, les figures aimées s'en aller. Et en quelques années, moi, il y a eu une sorte de prélèvement un peu trop important. Mon papa, ma maman, mes tantes, mon meilleur ami, un autre ami. Donc j'avais le sentiment quand même que la mort s'acharnait un petit peu autour de moi, et il m'a fallu quand même trouver les moyens de continuer après les chagrins immédiats. Et ce moyen de continuer, c'est justement de se persuader un jour que nous sommes vivants, nous sommes là, nous avons le devoir d'être en vie, à la fois pour nous-mêmes, pour le monde que nous essayons de construire, pour cette déconstruction contre laquelle nous avons à lutter. Et nous avons aussi le devoir d'être vivants pour ceux qui ne le sont plus. Et je me suis persuadé de ça, ça m'a donné beaucoup de force.
Dans votre roman, vous posez ces questions qui me hantent. Qu'est-ce que ça signifie être vivant? Quel est le plus haut degré du vivant? Y aurait-il différents états qui nous permettraient de distinguer si l'on est plus ou moins vivant? Vous avez quelques éléments de réponse, Philippe Claudel?
J'en ai quelques-uns qui me sont personnels, mais qui, je pense, peuvent être applicables à beaucoup d'entre nous. Il me semble que lorsqu'on aime et lorsqu'on est aimé, par exemple, il me semble que les deux conjonctions de ces élans profondément humains nous rendent encore plus vivants et encore plus emplis de vie que lorsqu'on a la malchance de ne pas aimer, de ne pas être aimé. En tout cas, même si on ne parle pas d'amour au sens passionnel, passionné, physique, sensuel et profondément affectif, je pense que le plus haut degré du vivant, ça s'atteint lorsqu'on parvient à tisser une relation profonde avec l'autre.
Il y a encore cette définition de la vie, vivre, en quelque sorte, c'est savoir survivre et recomposer.
Bien sûr, et encore une fois, on en revient à une actualité qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que font toutes ces familles, toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui fuient? On a précipité leur vie dans une sorte de chaos. Mais l'instinct de vie, l'amour de la vie est tellement fort que l'être humain ne cesse de vouloir reconstruire un ordre, de vouloir recomposer ce qui a été décomposé, de vouloir repartir. Et ce qui m'a toujours fasciné dans cette créature, chez cette créature que nous sommes, qui est à la fois extrêmement fragile, c'est ce pouvoir et cette puissance de repartir, de reconstruire sa vie, d'affronter les épreuves, de traverser les mers, les terres, d'endurer la faim, le froid, pour parvenir à nouveau à ce rêve d'existence, à ce rêve du vivant, à cette île qu'on essaye d'atteindre, soit symbolique, soit réelle, mais où la vie peut enfin prendre toute sa pleine puissance.
Je vous cite encore, Philippe Claudel, « Ainsi vont nos vies qui se décident parfois un peu trop vite et qui nous laissent nous débrouiller ensuite avec nos regrets et nos remords. »
Mais oui, enfin, ça c'est un moment peut-être où le narrateur est dans une forme de mélancolie, mais nous avons tous les moyens de faire en sorte que les regrets et les remords occupent une place relativement faible dans nos existences et dans nos pensées.
Mais on fait comment ?
Eh bien, on essaye de ne pas en fabriquer, des regrets et des remords, donc de prendre les bonnes décisions quand il faut.
Plus facile à dire qu'à faire.
C'est très important de pouvoir se regarder dans une glace, vous voyez. Ce simple geste depuis l'enfance me dit, bon, est-ce que je suis digne de me regarder? Est-ce que j'essaye de faire me rend digne d'être regardé déjà par moi-même et par les autres dans un miroir. J'ai été élevé dans une religion catholique qui m'a beaucoup marqué. J'en garde un certain nombre de préceptes, même si l'idée de Dieu m'a abandonné depuis longtemps. Mais j'essaye au quotidien, oui, de transmettre et d'incarner, très modestement, dans tout ce que j'essaye de faire, les valeurs qui m'ont été inculquées, qui sont des valeurs de fraternité, de charité, d'honnêteté, de sincérité, et de faire tous les gestes du quotidien, les plus importants comme les plus simples, dans cet esprit-là.
Vous l'avez dit, hein, la place des artistes, le rôle de la culture dans nos vies, ce sont des sujets également abordés. Je cite votre narrateur et je vous laisse commenter. On pardonne beaucoup aux artistes car on ne les prend en définitive jamais vraiment au sérieux.
Nous sommes les fous du roi, mais le fou du roi, il est là pour dire que le roi est nu, que le roi s'égare, que le roi est aveuglé. Et qui d'autre aujourd'hui, sinon les artistes au sens large, peuvent se permettre de dire cela? Et le regret, c'est que peut-être nous ne le disions pas encore suffisamment assez, ni assez haut, ni assez fort. Nous pouvons montrer au roi qu'il est nu, alors ne nous en privons pas.
Ce sont des mots, des paroles qui doivent vous marquer, vous interpeller, Frédéric Dussen, Vincent Engel.
Oui, bien sûr. Hein.
Ah ouais. Oui, forcément, oui, évidemment. Ouvrir une brèche, hein. Ouvrir une brèche dans la certitude, c'est probablement la seule chose qu'on peut faire, mais c'est extrêmement important, évidemment.
Et j'ajouterais, parce que je pense que tout le livre de Philippe Claudel est finalement traversé par ça, on nous bassine beaucoup avec le devoir de mémoire, qui est vraiment un concept qui me rend de plus en plus allergique.
Allergique.
Et je pense que Philippe Claudel montre que ce qui est important, ce n'est pas le devoir de mémoire, c'est le désir de mémoire. Oui. Et le désir de mémoire, ça nous aide vraiment à vivre.
Le désir de mémoire est extrêmement important et, à mon sens, il est à conjuguer avec un autre devoir qui est le devoir du vivant. Voilà. Le devoir du vivant, le désir de mémoire, je pense que ça peut être deux piliers qui peuvent soutenir comme ça une voie d'existence. Il faut absolument qu'on soit dans une occupation du monde, hein. Occupation au sens vraiment plein, c'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes agressés, éblouis, caressés, heurtés par le monde dont nous avons parlé, qui peine à être compris, en tout cas par nous aujourd'hui, mais en même temps, nous sommes pleins de lui. Et cette plénitude, elle permet aussi, dans une espèce d'intime élan de distillation, de nourrir ce vivant dont on parlait tout à l'heure et de rester droit, de rester fort. Tout à l'heure, il y avait une question dans l'entretien avec Claude Guibal, cet homme dans le train, lui demandait qu'est-ce qu'on a raté.
Vous avez la réponse,
il me semble que Non, mais je réfléchis à ça parce que c'est vrai qu'on se pose tous cette question-là par rapport à des dérives mortifères comme celles qu'on voit ou alors des dérives intégristes. Mais je me demande quand même très simplement si cet islamisme, pour reprendre le mot employé dans votre conversation, n'est pas une tentative pour recouvrir une dignité pour ceux qui ont l'impression de l'avoir perdue. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, à être dans le sentiment d'avoir été ravalé à une sorte d'indignité, d'être des disparus, d'être des invisibles, d'être des incompris, ceux à qui on ne donne jamais la parole, ceux qu'on ne questionne jamais, ceux qu'on balaye d'un revers de main, ceux qu'on ne voit pas. Et il est évident que si ce sentiment est profond et partagé, un idéal, quel qu'il soit, aussi fou soit-il, mais qui vous permet soudain d'avoir le sentiment de recouvrer une dignité, a toutes les chances quand même, malheureusement, de prospérer.
Si vous souhaitez embrasser la complexité et la beauté de la vie, lisez L'arbre du pays, Thorage.